dire, mes amis,
commencer par cette invasion, qui est une habituée qui préside le collectif VAN, Vigilance Arménienne contre le négationnisme, qui est une habituée de nos assises, l'historien Jacques Sévelin, qui est intervenu déjà à plusieurs reprises aussi, que je remercie infiniment de s'être dégagé de ses obligations et d'avoir pu venir, Vincent Duclair, qui a l'an passé remis à la demande du président de la République un rapport tout à fait important et fondamental, qui d'ailleurs a eu une véritable incidence sur le plan diplomatique et non seulement mémoriel. Donc Vincent Duclair, qui nous rejoint aussi. Merci beaucoup, merci à toi. Pour cette première porte de table ronde, je vous présente rapidement Vincent Duclair, historien, professeur des universités, inspecteur général de l'éducation nationale, et donc qui a dirigé un rapport dont je vois d'ailleurs plusieurs co-rapporteurs ici parmi nous, et je m'en félicite, consacré au rôle de la France avant et pendant le génocide des Tutsis rwandais de 1994. Il écrit beaucoup d'ouvrages. Je recommande notamment un ouvrage coécrit avec messieurs Kevorkian et Bozarslan, sachant que Amit sera parmi nous tout à l'heure, comprendre le génocide des Arméniens chez Armogolin parmi d'autres ouvrages. C'est Apa Vazian, donc président du collectif VAN, qui présentera dans un instant son allocution, et donc Jacques Sévelin, historien, directeur de recherche émérite au CNRS et au CERI Sciences Po en particulier, auteur de nombreux ouvrages également. Je citerai en particulier le très considérable « Purifier et détruire » qui est accessible, qui est paru il y a quelques années, qui est accessible en livre de poche au point seuil, très facilement et sincèrement, je vous le recommande. Je voudrais commencer par cet appareillant. Voilà, tu as la parole. Je vous demanderai de ne pas trop dépasser, c'est-à-dire en fait de ne pas dépasser du tout, 15 minutes, de façon à ce que, là nous sommes à l'heure, ce qui est rare pour un colloque, mais c'est important, de façon à ce qu'on puisse ensuite passer la deuxième table ronde et puis à effectuer tous nos travaux. Les questions, vous pourrez les poser en dehors des tables rondes si vous en avez. Et tous nos panélistes sont des gens extrêmement accueillants, gentils, bienveillants, donc ils accepteront bien évidemment de vous répondre, mais en dehors des tables rondes. C'est pas que la parole.
Merci beaucoup, Frédéric. Je ne sais pas si on m'entend.
Non. Moi, je parle.
En général, on arrive difficilement à couper la parole à ces parents.
Je remercie Frédéric Ansel et tous les organisateurs pour cette invitation. Effectivement, le collectif VAN, qui existe depuis 2004, fait partie des premiers partenaires des assises contre le négationnisme. Donc, le collectif VAN, Vigilance Arménienne contre le négationnisme, combat avec ses petits moyens la négation de tous les génocides. Donc, c'est vrai qu'on est surtout axé sur le génocide arménien, la Shoah, le génocide des Tutsis. Voilà, les trois génocides sur lesquels on essaye d'intervenir le plus. Donc moi je vais parler cette année, vu le thème des crimes de masse, des crimes de guerre, torture et de leur négation, qui sont commis essentiellement depuis 2020 par l'Azerbaïdjan, donc contre les Arméniens, que ce soit d'Arménie ou du Haut-Karabakh, donc qui est une enclave autonome arménienne, fiché au cœur de l'Azerbaïdjan, séparé d'une dizaine de kilomètres de l'Arménie. Alors, j'ai juste besoin de vous mettre une petite carte, donc je vais aller la chercher sur mon ordinateur pour que vous ayez une meilleure visualisation de quoi on parle. J'avais tout mis en ligne tout à l'heure. Voilà. Alors déjà, ça sera le portail sur lequel on sera tout à l'heure. Et je vais juste vérifier. Oui. Alors, donc, on va faire une petite carte pour que vous puissiez à peu près voir où nous sommes. Parce que tout le monde n'est pas au courant. Vous avez l'Arménie qui est coincée donc, entre l'Azerbaïdjan ici et une autre partie de l'Azerbaïdjan qui est de l'autre côté qui s'appelle le Nakhitchevan, qui était en fait à l'origine, qui faisait partie du royaume d'Arménie. Et vous avez aussi surtout la Turquie qui est à côté, avec un lourd passif, si on peut dire, pour les Arméniens. Alors les crimes de masse, crimes de guerre, pogroms, épuration ethnique, destruction du patrimoine culturel arménien, discrimination raciale, génocide, menace de génocide, ont jalonné l'histoire des Arméniens depuis au moins 135 ans. La Turquie, fière héritière de l'Empire ottoman, est à l'origine de l'idéologie pan-turque qui a mis en œuvre en 1915 le génocide du peuple arménien. Mais on le sait moins, sur ce plan, elle est secondée avec talent par l'Azerbaïdjan, essentiellement depuis les années qui ont tout juste précédé la dislocation de l'Union soviétique, c'est-à-dire à partir de 1988, grosso modo, mais plus encore depuis l'accession au pouvoir en Azerbaïdjan du clan Aliyev, donc Heydar Aliyev qui était le père, et son fils depuis 2003, Ilham Aliyev. Qui ont mis en place une véritable politique d'arménophobie d'État, enseignée à tous les niveaux, de maternelle jusque dans toutes les strates de la société, dans les médias, à la télévision, etc. À la star de la Russie qui ne reconnaît aucune réalité à l'identité du peuple ukrainien, l'Azerbaïdjan dénie aux Arméniens non seulement le droit à l'autodétermination au Karabakh, mais également le droit à l'existence en Arménie même, un État pourtant souverain, reconnu internationalement, que le président azerbaïdjanais désigne régulièrement sous le qualificatif de Azerbaïdjan occidental, ce qui annonce ses velléités expansionnistes. Qu'il publie régulièrement, que ce soit sur Twitter, il est tout le temps en train de parler, de reprendre Erevan, donc qui est la capitale de l'Arménie, reprendre le Sunik qu'il appelle Zangezur, qui est donc toute la partie au sud de l'Arménie, donc toute la partie que vous voyez coincée entre le Nakhitchevan et l'autre côté avec l'Azerbaïdjan. Voilà, il tient toujours ce type de discours expansionniste. Trois ans avant la dissolution de l'URSS, le célèbre dissident soviétique, prix Nobel de la paix, de 75, Andrei Sakharov, et sa femme Elena Bonner, avaient dénoncé la politique potentiellement génocidaire de Bakou envers la minorité arménienne qui venait d'être victime de pogroms dans deux villes de la RSS d'Azerbaïdjan, la République sociale soviétique d'Azerbaïdjan, à Sumgayit en février 88, donc ça fera 35 ans bientôt, puisque c'est à la fin du mois, et à Kirovabad, qui s'appelle aujourd'hui Ganja, fin novembre 88. Ce qui est intéressant, c'est en décembre 88, un an avant sa mort, Sakharov s'était rendu en Arménie et en Azerbaïdjan pour une mission d'enquête au terme de laquelle il avait déclaré « Pour l'Azerbaïdjan, la question du Karabakh est une question d'ambition. » Pour les Arméniens du Karabakh, c'est une question de vie ou de mort. Et aujourd'hui, on en est là encore, essentiellement depuis la guerre déclenchée en septembre 2020 pendant 44 jours par l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh. Mais l'armée qui intervient pour défendre le Haut-Karabakh, ce sont des conscrits essentiellement d'Arménie. Soldé par une véritable boucherie, parce que l'Azerbaïdjan n'était pas seul. Il y avait l'armée turque, des drones venus de différents pays qui étaient livrés pratiquement quotidiennement à Bakou. Et il y avait surtout aussi 2000 djihadistes, mercenaires syriens, que la Turquie avait fait venir pour prêter main forte à l'Azerbaïdjan. Je précise que l'Azerbaïdjan et la Turquie sont liés par de multiples accords au nom d'une fraternité turcique. Ils se considèrent comme deux États pour une seule nation. Voilà. Alors, l'idéologie nationaliste pan-turque qui est donc la réunification de tous les peuples turcs, que ce soit en Turquie, en Azerbaïdjan ou même au-delà, éventuellement en Asie centrale, inquiète des associations, des institutions plutôt que peut-être que Genocide Watch, de Lemkin Institute, l'IAGS et l'International Association of Genocide Scholars, qui alertent régulièrement sur les risques de génocide à l'encontre des Arméniens du Sud-Caucase, et pas seulement pour les Arméniens du Haut-Karabakh, qui, je précise, n'est pas une entité reconnue internationalement. Sans compter les rapports des autres ONG qui documentent les crimes de guerre commis par les troupes de Bakou et de ses alliés. Dernier épisode dont peu de médias se font l'écho en France, depuis le 12 décembre dernier, les Arméniens de Haut-Karabakh, en arménien qui s'appelle Artsakh, en référence à l'antique royaume arménien d'Artsakh, c'est donc le nom historique de cette enclave arménienne, sont assiégés et coupés du monde par un blocus mis en place par l'Azerbaïdjan sous l'œil, alors plus qu'indifférent de la Russie, qui est censée contrôler la paix avec 2000 peacekeepers, donc soi-disant des gardiens de la paix russe, mais qui en fait sont relativement inexistants dans cette gestion de ce blocus, parce que la Russie a en fait des accords bien plus lucratifs avec l'Azerbaïdjan et la Turquie. Donc elle fait semblant d'être l'alliée de l'Arménie. Dans les faits, pendant 30 ans, elle a plus ou moins été garante de sa sécurité vis-à-vis de la Turquie. Je précise que la Turquie, après le génocide de 1915, n'a jamais été jugée, ni condamnée à payer des réparations, enfin, ou même des réparations morales, par la communauté internationale, et qu'elle a toujours avoué son désir de continuer le travail. Donc, voilà, la Russie, on fait ce qu'on peut, mais en tant qu'ancienne République soviétique, l'Arménie s'est placée, de fait, pendant au moins 30 ans, sous ce protectorat qu'elle pensait lui assurer une certaine sécurité. On le voit que ce n'est plus du tout le cas depuis la guerre de 2020, puisque la Russie et Poutine n'est absolument pas intervenu dans cette guerre. Il y a sans doute une raison à cela, c'est que en 2018, l'Arménie avait changé de régime. L'ancien régime qu'on pouvait qualifier plutôt de pro-russe a été balayé par une révolution de velours. Un premier ministre a été élu donc de cette révolution qui s'appelle Nikol Pachinian, qui prônait donc la séparation du monde russe, etc. Et donc, même pas deux ans après, quand l'Azerbaïdjan et la Turquie ont attaqué le Haut-Karabakh ou bombardé des soldats arméniens, Poutine a vraisemblablement, tacitement donné son accord à cette guerre, parce que jamais il n'aurait laissé un autre État empiéter dans le Sud-Caucase, qu'il considère comme son précaré. Enfin, on a vu avec l'Ukraine qu'ils ne considéraient pas simplement le Caucase comme son précaré, mais en fait toutes les anciennes républiques soviétiques. Donc ce blocus actuel, qui va bientôt faire 2 mois, donc interdit toute livraison, en tout cas de manière suffisante, de nourriture, de soins, la possibilité d'actes médico-hospitaliers, de produits d'hygiène, de médicaments, de les materniser, et j'en passe. Vous pouvez imaginer, voilà, vous êtes bloqué. Alors, par l'Azerbaïdjan qui a mis en œuvre des soi-disant militants écologistes, mais sachant qu'il n'y a pas de vrai militantisme en Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan est une dictature, donc c'est très difficile pour des vrais militants d'avoir une autonomie en quoi que ce soit. Leur motif étant que le Haut-Karabakh exploite une mine d'or qui serait polluante. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont polluantes en Azerbaïdjan, y compris le pétrole et le gaz qui est extrait de la mer Caspienne. Et ça, on ne les a jamais entendus, ces militants écologistes, à ce niveau-là. Et donc, je ne pense pas qu'un militant écologiste digne de ce monde a pour ambition d'affamer une population en plein hiver, et non seulement l'affamer, mais en plus de la priver de gaz et d'électricité, donc avec des températures souvent négatives. Donc je vois mal des vrais militants écologistes faire ce type d'action. Donc en fait, les Arméniens du Haut-Karabakh, donc d'Afsar, ont pour horizon de choisir entre la balise ou le cercueil. Et c'est d'ailleurs plus ou moins ce que leur a dit Ilham Aliyev, l'actuel président azéri, qui leur a conseillé de quitter le Haut-Karabakh, que la route était ouverte, mais dans un seul sens. C'est-à-dire qu'ils peuvent partir, mais ils ne pourront pas revenir. Donc c'est ce qu'on appelle une épuration ethnique, même si ce n'est pas violemment, mais ça sera de facto une épuration ethnique, puisque ce territoire qui est peuplé d'Arméniens depuis au moins le IIe siècle avant Jésus-Christ serait totalement vidé. Ah, il reste une minute.
Entière.
C'est trop gentil. Donc, je voulais vous parler surtout des crimes de guerre, mais je crois que ça va être un petit peu difficile. Alors, je vais aller directement sur le site azeriwarcrimes.org que je vous conseille de noter, et vous pourrez aller vérifier par vous-même tous les crimes qui ont été documentés depuis la guerre de 2020. Alors la guerre de 2020 était spécifiquement contre le Haut-Karabakh, mais en septembre 2022, l'Azerbaïdjan a attaqué cette fois-ci l'Arménie même. Et là, en l'espace de 2 jours, il y a eu 270 morts, ou quelque chose comme ça, du côté arménien, avec des crimes abominables. Alors, vous pourrez vérifier tout ça. Il y a des crimes absolument horribles que je ne vais peut-être pas vous faire visionner ici, parce que vous allez... à mon avis, faire des cauchemars, mais particulièrement pour septembre 2022, vous avez l'exécution de 8 ou 9 prisonniers arméniens par l'armée azerbaïdjanaise, et l'exécution, la torture, sans doute le viol, le démembrement d'une soldate arménienne, qui sont particulièrement épouvantables. Vous pourrez voir beaucoup d'autres éléments sur ce site qui est assez bien fait, donc vous pouvez voir, il y a plusieurs chapitres, mais vous pouvez tout vérifier, c'est assez horrible, que ce soit contre les civils ou contre les militaires qui sont des conscrits de 18 à 20 ans généralement. Voilà. Donc l'Arménie a perdu déjà 6000 soldats en 2020, elle en a perdu plus de 200, enfin près de 300 en 2022, et ça continue puisque l'Azerbaïdjan a décidé non seulement de régler par la force le sujet du Haut-Karabakh, mais également d'envahir l'Arménie. Donc est-ce que...
Merci. Mais merci beaucoup de l'avoir respecté, merci pour ces précisions, merci d'avoir rappelé qu'il y a sur le continent européen, alors au sens large du terme, après tout, où commence et où s'arrête l'Europe, à l'ouest c'est assez facile, à l'est il y a beaucoup d'interprétations géographiques et géopolitiques, et au fond le Caucase n'est pas tellement plus éloigné de la France en particulier que l'Ukraine méridionale. Donc merci d'avoir rappelé que nous sommes dans un véritable état de guerre, que effectivement nous avons affaire à un conflit à la fois géopolitique, un conflit bien évidemment mémoriel, et une négation mémorielle tout à fait considérable en tant que guerre, c'est le cas aujourd'hui. Je cède immédiatement la parole à mon ami Jacques Semelin, historien, et je vous l'ai dit, directeur de recherche et médic au CNRS, pensez-y, purifier et détruire. Et nous avons, à travers cet ouvrage, d'autres ouvrages de Jacques Semelin, un panorama avec ou sans guillemets de l'ensemble des génocides, notamment des grands génocides du XXe siècle, avec, comme on le dit souvent à Sciences Po, des constantes et des changements. Et moi, je retiens notamment les constantes que tu as pu, avec beaucoup de brio, établir et analyser à travers donc, cet ouvrage et plusieurs autres. Tu as la parole.
Merci Frédéric.
me réinviter à ces assises. L'année dernière, j'avais parlé de Zemmour, je salue Pierre-François Bien qui a évoqué des travaux sur ce sujet, que j'ai conduit avec un livre, etc.
Mais j'ai décidé d'oublier ce personnage, garder un œil et même deux sur ce qu'il raconte, mais quand même il y a une actualité extrêmement brûlante, c'est ce qui se passe en Ukraine. Et j'ai donc décidé de faire ma communication trop brève sur la question des réflexions sur les génocides dans le contexte de la guerre en Ukraine. J'évoquerai trois points. Le premier, ce sont les usages politiques et mémoriels du mot génocide dans les conflits contemporains, la question des rapports entre guerre et génocide, et enfin, disons, les logiques de destruction. Alors pour commencer, il faut commencer par M. Poutine lui-même, qui, au moment de l'agression de l'Ukraine, a dit que la Russie, les Russes étaient menacés d'un génocide de la part des Ukrainiens, n'oublions pas. Il faut aussi citer la réponse de M. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, qui a dit que, en fait, non, c'était eux qui étaient victimes d'un génocide. Donc ce terme de génocide, il est au cœur de l'histoire de l'Ukraine et au cœur du conflit qui se joue en ce moment. Simplement, c'est compliqué de comprendre cette question de génocide dans le contexte de la guerre en Ukraine, et c'est pourquoi c'est très intéressant de parler de relativiser les crimes de masse dans ce contexte. Premièrement, les usages du mot génocide. Disons, le génocide est défini aujourd'hui comme le crime des crimes, qui s'attaque aux populations innocentes. Sa résonance émotionnelle est même plus forte que celle de crimes contre l'humanité. C'est pas tout à fait... Bon, vous savez, à La Haye, ceux qui ont été condamnés pour crimes de génocide et crimes de l'humanité, ils accordent à peu près la même pénalité, enfin même sanction, c'est-à-dire près de 40 ans. Donc c'est pas tout à fait correct du point de vue de la mémoire, mais c'est ainsi. Alors il faut décrypter les usages politiques du mot génocide dans notre modernité. J'en distingue quatre. Premièrement, le mot génocide, c'est un mot tombeau. C'est une manière de donner un linceul à des groupes qui n'en ont pas, dont on ne reconnaît pas le crime. Et évidemment, je pense bien sûr, en premier lieu, aux Arméniens. Le mot génocide, c'est un mot aussi alerte. C'est le moyen pour des ONG de dire, de clamer, de travers des réseaux, voilà. Un peuple est en danger de génocide. On peut en faire aujourd'hui, en premier lieu, à ce qui se passe pour les Ouïghours en Chine. Troisième mot du génocide, c'est le mot incrimination, bien sûr. C'est-à-dire s'appuyer sur la juridiction internationale que l'on voit principalement au départ à M. Raphaël Lemkin, dont je vais reparler, à travers la Convention pour la prévention et la répression du crime des génocides adoptée par l'ONU en 1948, ici à Paris, au Trocadéro. C'est donc à partir de ces textes que l'on peut incriminer des acteurs, responsables ou exécutants. Et puis il y a un troisième usage qui m'intéresse particulièrement, c'est le mot propagande. Le mot génocide, il est utilisé comme un moyen de jeter l'opprobre sur un autre défini comme ennemi, comme un adversaire qu'il faudra attaquer. Est-ce qu'on a oublié que dans les années 1980, les Serbes ont commencé par dire qu'ils étaient menacés d'un génocide contre les Albanais par les Albanais du Kosovo, 90% de cette province. C'est intéressant parce que ça exprime en fait l'usage du mot génocide dans la culture russophone. Il se trouve que j'étais pour un temps expert auprès des Nations Unies pour la prévention, l'analyse et la prévention des crimes de génocide. J'ai pas eu beaucoup de succès. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans les réunions, on ne voyait pas les Russes à New York. On ne voyait pas plus les Chinois. Mais vous découvrez qu'il y a un usage dans le monde russophone du mot génocide pour se présenter comme victime et donc comme agresseur. Alors, les Serbes, ils ont commencé en 86-88. Mais après, Moscou a continué dans cette lignée en accusant le président de la Géorgie, Saakashvili, d'être un nouvel Hitler et de commettre un génocide contre les Ossètes. Et M. Poutine, il est dans la même logique aujourd'hui. Et pas que depuis 2022. Je ne comprends pas que les diplomates n'aient pas fait plus attention au vocabulaire poutinien de ces 10 dernières années pour voir que son usage du mot génocide était un danger pour la sécurité de la région. Car qui use, qui affirme être en danger de génocide, se prépare à l'acte. Le criminel, c'est comme si le criminel se déclarait déjà innocent de son possible crime. Donc, ça, c'est du côté des Russes. Mais M. Volodymyr, lui, il utilise le mot aussi génocide. Vous voyez, c'est un autre usage pour se présenter comme victime, bien sûr, de la part des Russes. Mais il utilise ce terme en fonction de toute l'histoire terrible de cette région de l'Ukraine, qui a connu à la fois des crimes nazis et des crimes soviétiques qui ont fait des millions de morts. Parfois, les Ukrainiens y ont participé, comme pas lui. Mais majoritairement, massivement, les Ukrainiens sont victimes. Donc, c'est un autre usage du mot génocide, vous voyez. Voilà, ça va jouer sur les réseaux, hein. Ben, il y en a un qui vont dire, ben oui, nous, on est victimes de génocide, et puis l'autre qui va dire aussi. Donc, comment vous faites? Ben oui, c'est le rôle de l'historien, de l'analyste, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mais tout se passe comme si, pour M. Volodymyr et pour M. Poutine, ils s'échangent à travers des miroirs de destruction réciproques. Je prends cette expression à l'historien Omer Bartov, qui a très bien parlé de cette région d'Ukraine, dont il est originaire, et une partie de sa famille, d'ailleurs, une partie de sa famille a été exterminée par les nazis. C'est comme si ces millions de morts de juifs dans l'Ukraine, mais sans oublier non plus la famine en Ukraine des années 32-33, vous ne pouvez pas l'oublier non plus. C'était une sorte de résonance mutuelle en miroir de toutes les horreurs de masse qu'ont connues cette région d'Europe. Et donc, il faut le garder en tête, il faut montrer, il faut avoir à l'esprit que, en fait, les morts, les millions de morts de cette période sont comme des otages mémoriels des vivants. Alors maintenant, c'est la guerre. C'est mon deuxième point. J'ai l'impression que la guerre n'existe pas. Mais bien sûr, elle est au premier plan. Il n'y a qu'à lire les superbes, si j'ose dire, enfin les sidérants articles écrits par René Ourdan dans Le Monde, et il n'est pas le seul, qui décrit l'horreur la tragédie de ces combats en Ukraine, en particulier dans le Donbass, et qui font bien sûr penser aussi à la Première Guerre mondiale avec la guerre des tranchées. Donc, où est la question? Où est le génocide? Attends, oui, crime de masse, c'est sûr, crime contre soldats, crime contre les civils, etc. Mais la notion de génocide, eh bien, jamais oublier les relations entre guerre et génocide, ou plutôt entre génocide et guerre. Le génocide, il se produit dans un contexte de guerre, le plus souvent. La guerre n'est pas la cause du génocide, mais elle est la condition favorable pour soit perpétrer un génocide. Les Arméniens, ça fait quelque chose, parce qu'il y a eu des massacres déjà avant, dans l'Empire ottoman, et la Première Guerre mondiale a servi finalement pour l'exécution de ce projet. Donc, il y a cette relation, vous allez le trouver entre les Juifs, bien sûr, et la Seconde Guerre mondiale. Auschwitz n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale. Pour les Tutsis, c'est la même chose. Alors, on est avec la carte d'Ukraine dans un autre, je dirais, dans un autre logiciel. Un autre logiciel qu'il ne s'agit pas, de détruire une partie du groupe, les Juifs, les Arméniens, les Rwandais, Tutsis. Il s'agit d'une atteinte contre tout le groupe, contre toute la nation ukrainienne, de la part de M. Poutine, et c'est en ce sens-là qu'il y a un crime négationniste de l'identité nationale ukrainienne. Mais il faut changer de logiciel pour comprendre cette dynamique du génocide. Il faut revenir à Raphaël Lemkin. Raphaël Lemkin, c'est le créateur du mot génocide, en 1944, dans un livre qui s'appelle « Axis Ruling Europe ». Et dans ce chapitre inaugural, regardez-le, il définit le génocide non pas comme l'intention de détruire un groupe racial, mais aussi national en tant que tel. Groupe racial, on va le comprendre, c'est les Juifs, c'est les Tutsis, c'est les Arméniens, mais national. Il faut changer un peu la logique de compréhension du génocide. Et donc, en faisant ça, Lemkin, qui est d'origine polonaise, il pense aux Juifs, il pense à la fois aux Juifs, il pense à la fois aux Polonais. Il sait ce que les nazis ont fait aux Juifs, mais il sait aussi ce que, par la suite, en même temps déjà, les Soviétiques ont fait aux Polonais. Donc il l'inclut dans cette définition du génocide. On va le retrouver dans la convention dont je vous ai parlé tout à l'heure, de 1948, intention de détruire entre un groupe en tant que tel, national, racial, ethnique ou religieux. Donc le national, il est bien là. Et Lemkin va reprendre aussi ce thème dans son autobiographie malheureusement non publiée, où il consacre un chapitre sur la manière dont les Soviétiques ont déjà cherché à détruire la nation ukrainienne, l'âme ukrainienne. Et M. Poutine, il est dans cette tradition. M. Poutine reprend la tradition soviétique par rapport à ce qu'il essaye de faire contre les Ukrainiens. Donc, vous voyez, on va avoir une autre approche du génocide. Et cette approche du génocide, elle va être aussi... elle a des conséquences aussi, parce qu'elle va être la conséquence de la destruction partielle du groupe. C'est pas dans la définition de 48, c'est la destruction d'un groupe en tant que tel, en tout ou en partie. Donc, il faut revenir à cette approche. Mais, vous me direz-vous encore, c'est quand même la dimension de la guerre qui domine. Et c'est pourquoi le juriste Philippe Sainz, que je salue, c'est pas là, mais c'est quelqu'un que je respecte énormément, a mis en avant le crime d'agression pour créer un tribunal international soit de nature à juger les crimes de M. Poutine. Mais, certainement, il ne met pas comprendre suffisamment en compte la question du génocide en tant que tel. Et je reviens en discuter avec lui, d'ailleurs. Cela dit, ça me trompe bien mon troisième point, c'est les logiques de destruction. Dans mes travaux sur le génocide, je distingue trois logiques de destruction. Enfin, sur les crimes de masse. Détruire pour soumettre. Le but est de détruire une partie du groupe pour en soumettre la totalité. Le massacre est, l'outil, entre guillemets, le plus adapté pour obtenir soumettre. Il ne s'agit pas de détruire tout le groupe, mais il s'agit de susciter un effet de terreur à travers lequel tout le groupe sera subjugué, soumis. Donc c'est vieux comme la guerre. Mais M. Poutine en a donné une nouvelle dimension, parce que, si vous voulez, vous avez, au moment de l'ex-Yougoslavie, le siège d'une ville qui s'appelle Sarajevo. Et le maire de Sarajevo dit, dans le conflit, il est en train de se passer un nouveau crime. C'est un crime d'urbicide, c'est-à-dire la destruction des villes, la destruction de la ville de Sarajevo. Ce terme n'a pas été repris tellement par les journalistes, mais il est extrêmement fort, parce que M. Poutine a exactement suivi cela, mais M. Poutine est devenu un professionnel de l'urbicide à la puissance X, en faisant détruire en 1989 la lutte de Grozny pour éliminer totalement la résistance tchétchène, c'est-à-dire que non seulement il détruit les combattants, mais il détruit aussi les non-combattants, et voilà, c'est gagné. C'est-à-dire que la ville est morte, écrasée. Il fait la même chose à Alep, en Syrie. Donc il a cette continuité-là qu'on va retrouver encore, et bien sûr, aujourd'hui, en Ukraine. Donc on est là dans cette logique de destruction-soumission. Mais il y a une autre logique, ce que j'appelle la destruction-éradication. Il ne s'agit pas de détruire tout le groupe, là. Il s'agit de détruire une partie du groupe considéré comme un cancer, considéré comme une maladie contagieuse, quelque chose qu'il faut éradiquer. Et donc là, on est vraiment dans la conception traditionnelle, si je dis entre guillemets, du génocide, c'est-à-dire la destruction et l'éradication qu'on va montrer pour les Tutsis, pour les Rwandais, pour les Tutsis, pour les Arméniens et pour les Juifs. Mais comme je vous dis, c'est ça, 3 minutes, il faut voir une autre logique, c'est ce que j'appelle la destruction-annihilation. La destruction-annihilation, c'est la volonté de détruire le groupe en tant que tel, en entier. Et on va changer de logiciel s'agissant du génocide de mon point de vue, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi aujourd'hui un génocide culturel, qui a moins d'assises juridiques, encore qu'on va le trouver dans la Convention de 48. La Convention de 48, elle dit atteinte à l'intégrité physique et mentale du monde, des membres du groupe. Donc ça veut dire les institutions de ce groupe, donc ça veut dire les fondements de la nation ukrainienne. C'est sa religion, etc. Et puis, il y a aussi transfert des enfants d'un groupe à un autre groupe. Et là, on le voit à l'œuvre aujourd'hui en Ukraine, puisqu'on assiste à des raptes d'enfants ukrainiens dirigés vers la Russie pour leur donner une nouvelle éducation. Donc, on va retrouver des éléments de caractère génocidaire dans cette approche que je viens de développer. Donc, si vous voulez, je pense que ce qui domine dans ce conflit en Ukraine, dans cette guerre en Ukraine, c'est évidemment le crime d'agression, mais aussi avec des impulsions, une impulsion génocidaire telle qu'ainsi définie. Et en conclusion, je ne voudrais quand même pas oublier un quatrième type de destruction dont on parle trop peu, c'est le crime contre la nature. Ce qu'on appelle écocide. C'est un terme qui a été créé en 1970 au moment de la guerre du Vietnam pour décrire les destructions de l'agent orange du nazisme. Eh bien, aujourd'hui, en Ukraine, il se produit aussi un crime de génocide, un crime d'écocide, pardon, qu'on oublie totalement. Près de 100 000 hectares de forêt ont déjà en partie brûlée. 700 000 hectares sont atteints par les mines et sont infectés par les mines. Il faudrait, selon les experts, 10 ans pour en arriver à bout. Donc, je ne sais pas qui jugera ce crime de génocide, je ne sais pas quel tribunal le jugera, je vous le demande. Mais j'y pense aussi, il ne faut pas l'oublier. Je vous remercie.
Cette analyse, comme je le disais tout à l'heure, panoramique des constantes des génocides et d'avoir évoqué des éléments constitutifs de génocides qui sont en train de se produire aujourd'hui. Vincent Duclerc, tu as la parole, je te la cède immédiatement et avec plaisir. Merci encore d'avoir accepté de participer à cette assise.
Merci Frédéric, et j'adresse toutes mes excuses aux intervenants d'après-midi. Je ne pourrais pas rester pour les écouter, grands amis. Je serai avec l'ancien président d'Ibuka, je vous salue, le président d'Ibuka France, Kian Sandimana. Je serai avec Marcel Cabanda à Lyon pour parler évidemment des étudiants cet après-midi, et bien de la France.
Et du Zaxou. Voilà.
Merci, merci Frédéric. Et justement, je tenais aussi à souligner, je veux dire, l'importance effectivement de la géopolitique que tu amènes, dans ces réflexions. Je pense que la géopolitique nous permet, on l'a vu à travers les deux premiers exposés, combien effectivement c'est une clé, c'est un savoir essentiel à la compréhension, en particulier du rapport guerre, génocide, crime de masse. Alors, si je reprends effectivement le processus génocidaire, la préparation du génocide et sa phase paroxysmique, la guerre est présente, elle est au cœur même de ces phénomènes selon trois modalités. La guerre justifie l'élimination des ennemis intérieurs de la nation qui sont désignés. Se protéger de l'ennemi extérieur implique d'éliminer l'ennemi intérieur. La guerre, elle prépare l'entreprise génocidaire en installant un état de guerre, avec un état d'urgence, une expulsion des diplomates, par exemple des journalistes, en brutalisant les populations et donc en les conditionnant à la violence, soit les bourreaux, soit les victimes, en décidant de mesures exceptionnelles contre les victimes désignées, mesures comme des démobilisations massives dans le cas du génocide des Arméniens, comme des dénationalisations ou dénaturalisations, notamment de la France de Vichy, comme des déportations massives qui sont tolérées par le reste de la société, surtout si ces déportations sont réalisées par les administrations du pays. On sait très bien que si la rade du Belgique avait été réalisée par les troupes d'occupation allemandes, l'acceptation l'acceptation par ces Françaises de l'arrestation de la population civile concitoyenne aurait été très différente. Enfin, la guerre, elle relativise, on l'a dit et on va y revenir, par la suite, ces actes d'extermination en les présentant comme des conséquences non intentionnelles de la guerre, en tenant les victimes comme des dommages collatéraux. Les négationnistes exploitent beaucoup ce thème de la guerre. C'est en particulier le négationnisme de l'État en Turquie. Pour le négationnisme du génocide des Tutsis, la thèse martelée a été celle d'une guerre civile accompagnée de massacres interethniques. Et ces deux éléments-là sont totalement faux. Ce ne sont pas des massacres interethniques, ce n'est pas une guerre civile, c'est un processus génocidaire dirigé contre la minorité Tutsi depuis, globalement, 1959. Et en fait, pour la Shoah, la guerre qu'aurait affronté l'Allemagne nazie aurait été, selon ses dirigeants, selon les dirigeants nazis, une guerre juive, pour prouver l'emprise des juifs sur le monde. Et Churchill, comme Roosevelt, on le sait, craignant que des actions militaires spécifiques pour sauver les juifs n'accréditent cette thèse d'une guerre juive, ont refusé d'agir en faveur des populations en voie d'extermination. Et ont préféré, effectivement, mener jusqu'à son terme la guerre extérieure, la victoire sur les forces conventionnelles de l'Allemagne nazie. Donc on voit bien ces trois modalités qui font disparaître la spécificité et même la réalité des crimes de masse et des génocides sont malheureusement trop souvent admises par l'opinion, dans la mesure où la guerre finalement est une donnée de cette histoire. Elle est un phénomène bien connu, contrairement au génocide et aux crimes de masse. Et donc finalement, la Shoah, sur le génocide des Arméniens, sur le génocide des Tutsis, on voit d'abord des guerres, de guerre mondiale, pour le génocide des Tutsis, on va dire guerre civile, alors même que ce n'est pas une guerre civile. On va lire finalement le génocide, les génocides, à travers cette focale de la guerre, et donc on va être happé par la relativisation. Donc, vous voyez effectivement combien les éléments sont complexes. Et effectivement, le négationnisme exploite fortement la rationalité de la guerre et la mémoire de la guerre pour minimiser, pour relativiser ou nier les génocides. Alors, afin de sortir de la confusion, car on est dans la confusion et même de l'erreur, il est nécessaire, je pense, de complexifier la guerre qui fournit le prétexte, le cadre et ensuite le discours négateur des violences de masse et des horreurs génocidaires. Et en fait, de cette complexification sortira bien évidemment la clarification, enfin je l'espère. Alors, le premier point, c'est de souligner, d'insister sur le fait que, en fait, lorsqu'il y a des violences de masse ou une entreprise génocidaire, on n'a pas affaire à une guerre, on a affaire à deux guerres. On a affaire à une guerre extérieure de conquête, et cette guerre extérieure de conquête, elle masque effectivement la guerre prioritaire, qui est la guerre d'extermination. Je reviendrai sur ce terme de guerre d'extermination. Et paradoxalement, la guerre d'extermination, elle est la plus facile à stopper. Par exemple, en 1894, lorsque les Arméniens subissent des grands massacres amidiens donc dans l'Empire ottoman, ou en 1994, lorsque les Tutsis subissent une guerre d'extermination. Alors, mon premier point, après effectivement ces modalités présentées, peut-être pour rappeler, puisqu'on est en phase d'étudiants, qu'on a quand même une problématique, ça serait de dire, si la guerre est omniprésente dans les crimes de masse et les entreprises génocidaires, elle ne peut, sans examen critique, les expliquer. Alors le premier point, ça serait effectivement de rappeler, et beaucoup de choses ont déjà été dites par les deux exposés précédents, et par Frédéric dans son introduction, que, effectivement, dans la guerre que mènent ces régimes génocidaires ou exerçant des violences de masse contre les populations civiles, c'est que l'objectif prioritaire, c'est la guerre d'extermination. Hein. C'est la guerre intérieure. La guerre intérieure contre des ennemis désignés comme extrêmement menaçants par les régimes en place. C'est le fameux « eux ou nous ». Si nous ne sommes pas, si nous n'éliminons pas une minorité, nous allons périr. Hein. C'est ce que Jacques a rappelé, au fond, la guerre, le génocide en miroir. On accuse les Arméniens, on accuse les Tutsis de préparer un génocide. Et pour sauvegarder le peuple majoritaire, eh bien, on élimine ceux qui vont commettre un génocide. Les faits montrent que, effectivement, il n'y a aucun élément, je veux dire, de cela. Et au contraire, les Tutsis, comme les Arméniens, veulent, je veux dire, s'impliquer dans la démocratisation des États. Le fameux Ounou, et du reste, c'est intéressant parce que Émile Zola, en 1896, hein, avant l'affaire Dreyfus, fait un grand article dans le Figaro, qui s'appelle Pour les Juifs, et il ironise en disant regardez cette grande Europe catholique qui craint, qui a peur de ces 5 millions de juifs qui vont les menacer. Donc il ironise, et c'est vrai, c'est totalement, je veux dire, au fond, indécent d'envisager ce fameux « ou ». Mais ça fonctionne, effectivement, dans le cadre de ces régimes dont certains sont totalitaires. Il y a aussi, effectivement, l'antécédent de cette guerre. Cette guerre d'extermination, elle est très ancienne. Un génocide se prépare, mais bien de loin, en fait, c'est ce qu'a rappelé le président Macron à Kigali le 27 mai 2021. Oui, effectivement, et donc, on peut repérer les strates, les étapes de cette guerre intérieure d'extermination, qui est un bagouille souvent, mais qui est aussi très nette. Et dans le génocide des Tutsis, la récurrence des massacres organisés, planifiés par le pouvoir, par les milices du parti unique. Et puis, en fait, l'objectif prioritaire de cette guerre intérieure d'extermination, c'est le fait que cette guerre, elle se poursuit, même lorsque la guerre extérieure est perdue. C'est-à-dire, on le voit, je veux dire, dans l'Allemagne nazie, comment effectivement, alors même que les fronts s'effondrent à l'ouest et à l'est, eh bien, la priorité est toujours accordée au train de déportés. On continue, à exterminer Auschwitz-Birkenau. On fait les marches de la mort, alors même que, ça consomme, d'un point de vue strictement technique, ça consomme, effectivement, des moyens militaires, des trains. Donc, on voit que finalement, et on en arrive à l'idée que la vraie victoire, c'est-à-dire que ce soit des jeunes purs unionistes, des dirigeants nazis ou du Hutu Power, la vraie victoire, c'est pas la victoire, au fond, dans ce qui pourrait apparaître comme une guerre extérieure, c'est la victoire sur l'ennemi intérieur, dans une vision millénariste, effectivement, de la nation. Alors, bien sûr, dans le fameux, la fameuse controverse entre fonctionnalistes et internationalistes pour comprendre les génocides, c'est certain qu'on est là plutôt du côté des internationalistes, mais néanmoins, je rappelle que, effectivement, ces violences de masse et surtout ces génocides se préparent. Alors, le deuxième point, ça serait de voir comment est-ce que la guerre extérieure se met au service de la guerre d'extermination. Notamment, par exemple, pour l'Allemagne nazie, il faut conquérir des territoires. Ça, c'est le travail de Christian Grau. C'est-à-dire, on se projette vers la Pologne, où la Pologne va devenir le laboratoire d'extermination des Juifs. Il faut aussi créer un état de guerre. Même si, même si la guerre n'est pas présente, c'est le cas du régime d'Habyarimana au Rwanda. Il n'y a pas de guerre civile, il y a des opérations armées du Front Patriotique rwandais pour faire avancer les négociations ou pour riposter au massacre des Tutsis. Mais en fait, le président Habyarimana, c'est le cas en octobre 90, c'est passionnant, veut dire, et la France va tomber dans le panneau, croyant effectivement qu'il y a une menace majeure contre, contre la, notamment de l'Ouganda contre le Rwanda, eh bien le président Habyarimana explique que voilà, il y a une guerre déclenchée. Et en fait, cette guerre nous permet de faire des massacres contre les Tutsis, d'arrêter le parti de l'opposition, toute l'opposition de base. Donc, création d'un état de guerre, conditionner les populations, suspendre toutes les protections, hein, et ça, je l'ai effectivement déjà rappelé. Et enfin, la guerre extérieure va justifier la guerre intérieure d'extermination. Il faut lutter contre les traîtres. Hein. C'est très clairement le cas des Tutsis qui seraient, je veux dire, les complices du FPR. Et donc, partout au Rwanda, il y aurait des maquis du FPR, donc tenus par les Tutsis, ou bien ce qui se passe dans l'Empire ottoman avec les Arméniens, qui sont des traîtres. Et donc, d'où l'idée qu'il faut déporter les populations arméniennes pour les éloigner du front afin que eh bien, les fronts soient tenus. Sauf que le problème, c'est que les déportations des Arméniens eh bien, ont lieu très loin du front. Donc ça montre bien qu'on est là dans quelque chose de totalement donc, fabriqué. Enfin, troisième point, eh bien, la victoire dans la guerre intérieure, hein, comme je l'ai dit, elle permet de surmonter la défaite extérieure. C'est l'objectif majeur. Et ça explique le négationnisme. Le négationnisme n'est que la poursuite de cette guerre d'extermination à travers des mots, mais aussi à travers des discours. Et je crois que, effectivement, la menace que a fait peser et fait peser toujours sur le Rwanda et les 30 000 miliciens et forces armées rwandaises qui ont pu passer en 1994 en partie avec l'aide de la France, il faut le dire, hein, au nord Kivu, eh bien c'est une menace, ce sont des génocidaires qui menacent le Rwanda. Il faut effectivement le. Et pour, selon la fameuse expression, finir le travail, c'est finir effectivement le génocide contre les Tutsis. Et je pense qu'il faut aussi être assez vigilant sur le fait que, eh bien, lorsque nous avons du suprématisme blanc, quand nous avons des mouvements néo-nazis, eh bien, ils s'inscrivent, en fait, hein, même s'ils ne le disent pas, ils s'inscrivent quand même dans l'idée qu'il faut avoir, il faut remporter cette victoire sur l'ennemi intérieur. Donc vous voyez bien que, finalement, au fond, on comprend mieux si on distingue deux guerres, guerre extérieure, disons plus classique, hein, avec des armées conventionnelles, donc de prise de territoire, et puis une guerre intérieure, mais qui pour la Magnésie, une guerre qui s'étend à l'ensemble de l'Europe. Hein. C'est-à-dire, la Convention de Wannsee envisageait les 12 millions de juifs en Europe, y compris les juifs britanniques. Donc cette guerre intérieure, cette guerre d'extermination, elle me paraît effectivement très, très juste. Alors, cette guerre d'extermination, et j'ai encore deux points, donc j'ai encore trois minutes, c'est parfait, eh bien, c'est d'abord une guerre qu'il est possible d'arrêter. C'est là, je crois, qu'il faut vraiment insister, et le génocide des Tutsis est absolument terrible, parce que, comme l'a dit notamment l'Organisation de l'Union africaine, hein, très tôt, eh bien, le génocide pouvait être arrêté. Il y avait des forces en présence, casque bleu, force spéciale française, opération Tourcoing. Donc, tout était là, il n'y avait pas de guerre mondiale, il n'y avait même pas, bon, il y avait effectivement des affrontements entre le FPR et les forces armées rwandaises, mais c'était un génocide qui pouvait être arrêté, et du reste, c'est le Front Patriotique rwandais qui a arrêté militairement le génocide, difficilement aussi, mais il faut effectivement le rappeler. Il y a un précédent quand même qu'on oublie, même si on est bien sûr dans des aspects géopolitiques très nets, mais néanmoins, le Vietnam, en intervenant en 1978 contre le Cambodge, à arrêter ce qui est présenté en partie comme un génocide, c'est-à-dire et comme des crimes de masse. Mais là, c'est une action militaire qui arrête, il faut le dire. Voilà. Et puis, le travail qu'ils ont mené, donc, notamment avec une équipe, hein, son éveil présente, sur le génocide des Tutsis, a montré que certains officiers de l'opération Turquoise ont très vite compris que, effectivement, ils devaient arrêter le génocide qui avait encore lieu donc, dans ces régions, notamment à Kibouye, hein, en mobilisant la force armée contre les génocidaires. Alors, ils l'ont fait parfois trop tard, hein, il y a plusieurs événement bicécéro, hein, de 3 jours perdus, ça, on est tout à fait conscient. Mais c'est vrai aussi que certains officiers français ont compris que, voilà, c'était pas l'objectif, c'était pas d'attaquer le FDR, mais c'était de s'opposer aux génocidaires. On s'oppose aux génocidaires en montrant la force. Et des génocidaires, ce ne sont pas effectivement des soldats, ce sont des tueurs. Et au fond, les tueurs dont craignent la force armée, il faut le dire. Hein. Voilà. Alors, dernier point, vous avez compris que j'ai beaucoup insisté sur cette notion de guerre d'extermination. En fait, cette notion de guerre d'extermination qui paraît extrêmement pertinente pour le sujet, elle a été forgée. Alors, je n'ai pas de PowerPoint, mais en fait, Marcel Colbert a un PowerPoint, parce que derrière l'écran, vous avez un très beau tableau, et ce tableau montre Jean Jaurès à la tribune de la Chambre de 1906. Et Jean Jaurès, en 1896, eh bien, a protesté contre les grands massacres amidiens, contre les Arméniens, dans un discours extrêmement puissant, un discours où il était quasiment le seul à parler pour les Arméniens. Marcel Proust, dans Jean Santeuil, évoque hein, cet exploit, Jaurès. Et Jaurès, je trouve, à là, et là, pour le coup, Jaurès est un vrai géopoliticien, parce que Jaurès n'est pas seulement un homme politique, c'est pas seulement l'unificateur du socialisme, c'est un grand intellectuel, je veux dire, docteur en philosophie, historien, et donc qui a compris qu'il fallait donc travailler véritablement cette guerre d'extermination, et il le dit, et voilà, je crois que. Donc je prends encore une minute. Non mais en fait j'aurais dans ce petit livre, donc c'est un peu mon tribut là, c'est Il faut sauver les Arméniens, ça va être réédité en 2024 pour le centenaire de la mondialisation de Jaurès au Panthéon, mais Jaurès dit bien que, et c'est intéressant parce que Jaurès a compris qu'il y avait un franchissement seul. Et qu'effectivement, ce qui se passe à la fin du XIXe siècle, les grands massacres donc amidiens dans l'Empire ottoman, les pogroms hein, de Kishinev en particulier, on a effectivement quelque chose qui a un caractère génocidaire, même si on le comprend que plus tard. Mais Jaurès comprend qu'il y a un franchissement de seuil, et c'est pour cette raison-là qu'il va employer ce mot de guerre d'extermination, alors même que nous ne sommes pas dans une guerre. Et donc, ce qu'il dit bien, c'est qu'il y a une nouvelle forme de guerre. Cette guerre est contre des populations civiles avec des moyens considérables. Et il dit bien que ce n'est pas des petits groupes qu'on massacrait dans les villes, mais des grandes masses en un jour au son du clairon avec la régularité de l'exécution d'une sentence. Et en fait, il souligne que l'Europe est muette et indifférente à ces événements. Donc je crois effectivement que, vous voyez, l'histoire longue nous rappelle combien il est nécessaire, effectivement, pour penser les événements présents, de complexifier, mais complexifier nous amène ensuite à clarifier.
Merci notamment d'avoir rappelé qu'on arrêtait un génocide par la force. Quelque chose qui me paraît absolument fondamental et au moins sur le plan empirique tout au long du XXe siècle. Merci infiniment, merci à vous trois, sans plus tarder.